Radio Barque 21e, notre deuxième partie avec le sommaire que nous annoncions tout à l'heure, et un état d'absence au Parlement dont tu vas nous expliquer, Michel, le titre énigmatique.
Oui, alors précisons, en fait, le projet de loi de révision constitutionnelle a été voté, si je puis dire, en trois parties. C'était mardi dernier, donc on a voté l'article 1 dans la journée. Ensuite, le soir a été voté l'article 2 relatif à la déchéance de nationalité, et le lendemain, donc mercredi, ça a été le vote solennel en séance plénière. Et l'article que j'ai fait, en fait, sur mon blog, concernait effectivement la séance de mardi, en fait, après-midi, sur l'article 1er relatif à l'état d'urgence. Parce que j'avais été surpris, choqué, comme pas mal de monde, en fait, notamment sur les réseaux sociaux, par le fait que dans l'hémicycle, il y avait quasiment personne. Personne. Alors, je sais bien comment fonctionne en fait une assemblée. Je sais bien que c'est pas à travers ce genre d'image que l'on peut juger du travail sérieux ou pas que font les parlementaires. Pourquoi ? Parce que tout simplement, avant d'être voté en séance plénière, ces textes sont examinés en commission. Pendant les réunions de ces solennelles en question, enfin pas pendant ces réunions de l'assemblée, et pas solennelles. D'autres commissions travaillent, en fait. Il y en a 6 de commissions à l'Assemblée. Bon, tous les députés, d'ailleurs, sont membres de chacune des commissions. Ils sont obligés d'être membres de commission. Donc, ils travaillent, en fait, pendant que, en séance. Donc, de sorte que chaque groupe envoie dans ses séances pour examiner, en fait, un article, par exemple, celui qui est le plus spécialisé, celui qui est le plus motivé, celui qui a effectivement le maximum de savoir-faire pour défendre effectivement telle ou telle position.
Seulement ça. Tout le monde ne le sait pas déjà.
Ce que je note dans mon billet, c'est que d'abord, tout le monde ne le sait pas ça, et qu'il faut que les députés sachent qu'effectivement ce genre d'image. Et surtout sur un sujet comme celui-ci.
Oui, qui est quand même très
important. Les Français sont très sensibles, effectivement.
Vu l'ampleur de la polémique, d'ailleurs.
La polémique dure depuis des mois. En fait, elle traverse les partis. En fait, l'opinion est divisée sur le sujet. En fait, on a encore des mémoires des attentats. Enfin, bref, symboliquement, cette séance était aussi importante. Et ce que je critique dans mon billet, c'est moins le fait que c'est député soit absent dans des séances traditionnelles, quoi, comme celle-ci, que sur cette séance en particulier, où chargée d'un poids symbolique extrêmement fort, qui ne pouvait pas ne pas produire effectivement des effets négatifs dans l'opinion. Voilà ce que je voulais marquer dans mon billet. Et effectivement, ce que je notais à la suite, c'est que nul doute qu'à la séance solennelle, c'est-à-dire celle du mercredi, l'hémicycle serait effectivement plein pour voter, effectivement.
Voilà. Et il le fut.
Et il le fut.
Alors, l'avis de Jacques Bascou, qui a été député pendant 15 ans.
Oui, je crois que ce qui est important, c'est effectivement d'expliquer comment le fonctionnement de l'Assemblée, donc il y a les commissions, et puis les groupes se débrouillent pour que les majorités puissent s'exprimer. Je me souviens de Mazot, qui était président de l'Assemblée nationale, qui une fois avait fait une suspension de séance parce que la majorité n'était plus majoritaire dans l'hémicycle, et il avait dit ce n'est pas ce que les Français ont voulu. Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut quand même poser un autre problème, c'est le problème du cumul des mandats. Et moi, personnellement, je pense que même si les députés font leur travail, ils abandonnaient leurs mandats locaux, mais ça c'est un autre débat, ils seraient sans doute plus présents, non seulement en séance, mais aussi en commission. Et ça, je crois que c'est un problème, parce que vous l'expliquez aujourd'hui au niveau de la radio, mais nos concitoyens n'acceptent pas que les hémicycles soient, disons, très vides. Il y a des séances où il y a 15 députés. Et ça, c'est une mauvaise image de la démocratie.
Absolument. Mais bien entendu, Jacques Bascou, vous vous en doutez, on va revenir sur ce sujet dans une troisième partie qui vous sera entièrement consacrée. Merci. Ensuite, Michel, le port de la Nouvelle, alors c'est un des grands projets à la fois de la région, de l'agglo, puisque l'agglo est partie prenante et elle a la compétence du développement économique. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as à dire sur ce sujet ?
Parce qu'il y a eu un dossier, en fait, un dossier d'ailleurs assez bien fait, en tout cas de manière iconographique,
dans
l'Indépendant, en fait, sur deux pages, qui présente le port de la Nouvelle avec ces projets. Alors, évidemment, on peut pas tout dire, dans un article comme cela, notamment des choses sinon désagréables, en tout cas, qui pondéreraient sérieusement certains propos. Par exemple, Didier Codron nous dit, que le port de la Nouvelle représente un poids stratégique, important entre Barcelone, et Marseille. J'ai beaucoup d'amitié pour Didier Codroniou, mais comparer hein, la nouvelle aujourd'hui, voire même demain, à Barcelone, Marseille et surtout Gênes, les trois grands ports qui structurent en fait les grands trafics sur la Méditerranée, c'est un peu, j'irais même jusqu'à le comparer, va être à Tarragone, qui est le premier port céréalier de la Méditerranée, au passage. Donc, cela pour préciser un petit peu les choses, à savoir que la nouvelle est certes un enjeu, mais bon, il faut le prendre en fait comme il est et à sa mesure.
Alors, ramenons les choses à leur vraie point, dimension, ce qui point. N'est pas péjoratif d'ailleurs.
Bien
du
sûr.
Tout.
Deuxième point, alors c'est vrai que dans la stratégie de l'ancienne région Languedoc-Roussillon, comme j'espère dans la future, en fait, dans l'actuelle pardon, grande région, hein, aujourd'hui qui est propriétaire, je parle de la grande région, est propriétaire des trois grands ports de cette région, hein, à savoir Sète, La Nouvelle et Port-Vendres.
Port-Vendres l'ancien... dont on ne parle plus
on
beaucoup
pas jamais,
d'ailleurs.
Parce que bon, c'est spécialisé bon. Sur les fruits et légumes, c'est un tout petit port.
Depuis la perte de l'Algérie, Port-Vendres a perdu un peu sa position stratégique.
Bon, port de Sète, premier port de...
C'était le port de l'Algérie, si je puis dire.
Même de Toulouse. Parce que lorsqu'il y a eu une centralisation, on a décentralisé l'économie sur les chambres de commerce, et la chambre de commerce avait fait le choix de Port-Vendres. Mmh. Et si je vous dis ça, on y reviendra si vous voulez, parce que c'est important dans la logique.
Alors, ensuite, en troisième partie peut-être. Hein. Alors, donc, pour en revenir à ça, donc, les projets de la région aujourd'hui, quels sont-ils? 300 millions d'euros pour 7, entre 250 et 300 millions affichés. Pour la nouvelle. D'accord? 300 plus 250. Hein, allez, majorons d'un peu de 50 parce que ça va glisser assez facilement. Bon,
allez. Ce qui fait une grande partie des investissements prévus.
Ben, le budget aujourd'hui consolidé d'investissement de la grande région, c'est 1 million. En euros 2015.
Un milliard.
En consolidé 2015, hein, parce que le budget n'a pas encore été voté au primitif 2016.
Consolidé donc deux anciennes régions.
J'ai pris les deux anciennes régions, j'ai consolidé deux, c'est ce qui se fait aujourd'hui, fait de manière très simple, fait au niveau au niveau de l'administration régionale. Donc 1 milliard, ça veut dire que les deux investissements prévus de 7 en fait, et de la nouvelle représentent combien? 300, plus 300, disons 600 sur 1 milliard. Presque une année d'investissement de la future grande région. Bon, premier point. Alors que l'on sait hein, que la fusion des deux régions va se traduire par une renégociation, une reventilation en fait, des budgets, pour une raison simple, notamment d'investissement, c'est que la région Languedoc-Roussillon, l'Aix, arrive dans la fusion avec un endettement qui aujourd'hui grève considérablement effectivement les capacités d'investissement de la future grande région.
Donc tu tempères un petit peu cette...
Je dis voilà, bon, il y a 600, puis il y a ça. Hein. Je rappelle que la nouvelle aussi, bon, la déclaration d'unité publique n'a même pas été lancée, elle devait l'être en 2015. Donc on a déjà pris un an de retard, 2016. Au mieux. D'accord. Et la grande région va devoir arbitrer entre voilà, 300 d'un côté sur 7, 300 de l'autre côté sur pour la nouvelle. Dans un contexte où, structurellement, depuis 2010, mais ça c'est espérons que ce n'est que conjoncturel, hein, depuis 2010 jusqu'en 2015, le trafic de la nouvelle ne cesse de diminuer. On était en 2010 à 2 millions de tonnes, nous sommes en 2014 à 1,7 million. Et en 2015, un peu moins. Hein. Donc, ensuite, dernière remarque. Michel Santo. Hein. Autant je crois, en fait, à l'avenir du port Nouvelle, à travers et par, si tant est que le site soit retenu, le projet d'éolienne qui est envisagé.
D'éoliennes offshore, au large.
Offshore avec des capacités, capacités de montage, avec des réparations sur place, etc., fabrication sur place. Autant je crois fondamentalement à ce genre de perspective. Autant je crois aussi pour en avoir discuté avec le maire de l'époque de la Nouvelle, à l'avenir plaisance pour la Nouvelle, car nous manquons effectivement ici sur la côte d'anneaux. On en manque terriblement.
Autant tu doutes autant, de l'extension.
Autant je doute de la capacité à faire un port extérieur, en fait, à la nouvelle. J'ai tendance à penser que dans le futur, on assistera probablement à une révision des objectifs et des ambitions qui rabattra un peu plus la voilure envisagée au départ par Georges Fesch quand il a lancé effectivement ce grand projet.
Voilà. Alors nous poserons la question à Didier Codorniou qui sera présent à ce micro dans un mois environ, de par ses nouvelles responsabilités à la région. Nous verrons bien comment il voit cet avenir. On marque une deuxième... Jacques Bascou, peut-être un mot ?
Oui, je crois que l'analyse peut être juste, mais je crois que le port de Port-la-Nouvelle, c'est un défi. C'est la raison pour laquelle l'agglomération a investi. Bon, on a parlé de l'éolien offshore, c'est une réalité. Mais je crois que ce qui est important, c'est de voir, quand je dis que c'est un défi, qu'on le veuille ou non, une concurrence avec Sète. Et Sète, dans la région Languedoc-Roussillon, était quand même le premier port et la Nouvelle était le second port. C'est même pas un pari, c'est un engagement qu'on a pris. C'est de dire, et j'étais un des premiers, et je n'ai jamais contesté la grande région, j'étais un premier à dire que c'était important. Je pense que Port-la-Nouvelle peut être le port de Toulouse. Et il faut effectivement voir avec les Toulousains, et nous avons déjà des contacts, notamment avec les chambres consulaires, pour que l'on puisse justement développer ce port. Alors bien sûr, il y a les céréales, c'est une réalité, mais avec des hauts et des bas, l'exportation sur le Maghreb, mais il y a l'éolien offshore, et puis je crois aussi, c'est les études qui l'ont montré, que si on fait le port en eau profonde de 14 mètres de tirant d'eau, ça permet d'attirer des trafics qui n'iront pas sur les grands ports. Parce qu'aujourd'hui, justement, après avoir discuté avec pas mal d'acteurs de la filière, donc ils sont intéressés par Port-la-Nouvelle, qui est un petit port en devenir. Alors je ne vous dis pas que par rapport à des choix budgétaires, il n'y aura pas un autre phasage. Ça, c'est une discussion, mais je crois que c'est aux élus à se mobiliser pour que, avec la présidente Carole Delga, on a déjà eu cette conversation, Port-la-Nouvelle puisse peser. Et c'est vrai que même si Fresh avait à l'époque lancé le projet, et on connaît, on parle souvent de mégalomanie, mais on regarde le musée Murena ici, personne n'imaginait, je pense que Port-la-Nouvelle aurait démarré. Donc aujourd'hui, simplement, il faut que l'ensemble des élus, avec Didier Codorniou, qui, je le rappelle, est quand même chargé des ports, des infrastructures aéroports, donc il est bien placé avec Carole Delga, bien sûr, nous allons convaincre, mais les Toulousains sont convaincus que Port-la-Nouvelle est l'avenir de la région Midi-Pyrénées.
Voilà, merci pour cette précision, Jacques Bascou. On marque une deuxième pause.